Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le président bolivien Evo Morales était en visite au Vatican ce vendredi. Pendant une demi-heure, il s'est entretenu avec le pape. Les deux hommes ont fait part de leur proximité malgré les tensions entre l'Église et l'État bolivien. Nous reviendrons sur cette rencontre. L'appel du pape à prier samedi pour la paix au Moyen-Orient a eu un très large écho. C'est le cas en France notamment, où il est très relayé dans les diocèses. Nous entendrons le porte-parole des évêques. La parole aussi à Mgr Stinger, président de Pax Christi en France. Il nous parlera du concept de la guerre juste. Et puis nous irons au Vietnam où les candidats au séminaire n'ont jamais été aussi nombreux. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le pape a reçu ce vendredi matin le chef d'État bolivien Evo Morales. Les deux hommes se sont rencontrés en privé pendant 30 minutes et ont échangé en espagnol. Le chef d'État bolivien était accompagné d'une délégation de 6 personnes. Le président Morales qui a ensuite rencontré le secrétaire d'État, le cardinal Berton, et le secrétaire pour les relations avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Le compte-rendu d'Olivier Tosserie.
Selon un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, ces échanges ont été notamment l'occasion d'évoquer les relations entre la communauté ecclésiale et l'État en Bolivie dans un pays où les relations entre l'État et l'Église ont parfois été tendues. Evo Morales a longtemps qualifié l'institution catholique d'ennemi de ses réformes ou d'instrument de domination. Récemment, il a même cherché à lancer une Église catholique apostolique renouvelée de l'État plurinational, contrôlée par son gouvernement, mais que les évêques boliviens assimilent à une secte. Les deux hommes ont également évoqué la situation économique et sociale du pays, revenant sur la lutte contre les inégalités sociales et contre la pauvreté. Le pape et le président bolivien n'ont pas manqué d'évoquer non plus les questions de politique internationale, en particulier la promotion de la paix en Syrie et au Moyen-Orient. « Pour moi, vous êtes mon frère François », a lancé un Evo Morales très enthousiaste au pape au début de leur rencontre. Evo Morales avait déjà fait part de sa proximité avec François en se rendant à Rio de Janeiro le 28 juillet dernier pour assister à la messe de clôture des JMJ. En Bolivie, l'Église dirige quelques 1500 écoles et instituts de formation et 600 œuvres sociales et sanitaires. Elle gère actuellement une cinquantaine de projets de développement dans les régions rurales et auprès des autochtones, financés en grande partie grâce à la solidarité des catholiques des pays plus riches.
L'appel du pape à prier samedi pour la paix au Moyen-Orient et en Syrie en particulier a eu un très large écho, quels que soient les continents. Au Moyen-Orient bien sûr, mais aussi en Asie ou en Amérique latine, de nombreux croyants ou non devraient se réunir en vue de prier pour la paix. En France, l'initiative du pape a été très relayée dans de nombreux diocèses où des messes, des marches ou des temps de prière seront organisés. Mgr Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, revient sur cet enthousiasme et l'importance de répondre à cet appel. Il est interrogé par Manuela Affigi.
La réaction de l'Église en France à la proposition du Saint-Père de prier et de jeûner pour la paix en cette journée du 7 septembre reçoit un accueil très favorable. Un accueil vraiment de profonde émotion, à la fois chez les évêques et dans l'ensemble des diocèses. Je suis très frappé par le nombre d'initiatives qui se prennent pour être en communion avec le Saint-Père, parce que je crois que les catholiques apprécient beaucoup qu'une occasion leur soit donnée de faire le point dans la prière devant une question aussi grave. Les paroles très très précises du Saint-Père sur la gravité de la situation et l'invitation conjointe à vivre cet exercice spirituel sont vraiment très appréciés et je crois bienvenus dans le contexte français que nous savons, puisque les Français sont concernés, étant donné les positions de leur gouvernement concernant cette affaire de la Syrie.
Vous venez de l'évoquer, la France est en première ligne pour défendre l'option militaire contre le régime de Bachar al-Assad. Un débat parlementaire a eu lieu qui n'a été suivi d'aucun vote. Que pensez-vous de cette manière d'agir ?
Il y a vraiment un regret de beaucoup, non seulement de catholiques, mais aussi de beaucoup, je crois, de Français. Je crois qu'un sondage avait d'ailleurs dit que beaucoup de Français, aux trois quarts, je crois, désiraient que le Parlement se prononce d'une façon réelle. Donc c'était une attente d'environ 75% de citoyens. Une situation aussi grave demande véritablement un soutien des citoyens. On n'engage pas des décisions aussi importantes qui peuvent embraser une partie du monde sans regarder cela avec beaucoup de consultation. Ce qui vraiment est à dire, c'est que les catholiques ne chercheront jamais à compliquer les choses. Ils comprennent que la situation soit douloureuse et donc ils ne jugent pas les dirigeants qui ont des décisions très graves à prendre, mais ils les interpellent, comme le fait le pape François, sur les enjeux extrêmement cruciaux. Il ne faut pas ajouter de la violence à la violence. Il faut évidemment condamner. Il ne faut surtout pas rester passif si, hélas, les atrocités sont confirmées et si tout cela a été commis à la fois par le régime syrien et peut-être par d'autres. Il faut donc évidemment bouger, il faut réagir, mais ne pas faire n'importe quoi. C'est plutôt la position actuelle de l'Église catholique qui est très très proche des paroles du pape François et aussi très proche de l'épiscopat américain.
Alors une journée de jeûne et de prière pour la Syrie, pour le Moyen-Orient, pour le monde entier. Jeûner et prier, c'est très bien, mais est-ce suffisant ?
Jeûner et prier, c'est la condition préalable pour que le discernement soit profond, pour que le discernement ne soit pas non plus, toujours encombré des scories, de la polémique, de l'orgueil. En jeûnant et en priant, on reçoit de Dieu la force de dire les bonnes paroles, d'avoir une action forte. Donc le jeûne et la prière sont vraiment un préalable nécessaire pour que l'Esprit Saint donne la maîtrise de soi et aide aux justes décisions. Et le pape, d'ailleurs, ne fait pas que demander qu'on prie et on jeûne. Le pape lui-même mobilise toutes les énergies de la planète. On le voit agir énormément en faveur de la paix. Donc les catholiques, évidemment, ne feront pas que jeûner et prier. Ils associeront à ce jeûne et à cette prière des informations, des débats, des actions, des solidarités envers les chrétiens d'Orient et beaucoup d'autres choses. Jeûner et prier, c'est le fondement, et puis, je dirais, ça soutient l'action, ça soutient la pensée pour qu'elle soit la plus juste possible. Nous sommes encore à une croisée de chemin où on peut encore dire, à ce jour, que d'autres voies sont possibles. Et moi, j'appelle profondément à ce qu'on en cherche encore d'autres de voies, qu'on ne renonce pas, comme dit le pape, à croire qu'on aurait épuisé toutes les possibilités. Il faut continuer à aller jusqu'au bout du possible. Je prends un exemple. Est-ce qu'on a suffisamment exploré la possibilité de faire une réunion exceptionnelle d'une assemblée générale de l'ONU ? Ça mériterait quand même une assemblée exceptionnelle de l'ONU, un sujet aussi grave. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que cette piste-là soit explorée ? Tenter toutes les voies pour ne pas seulement dire « il n'y a qu'une voie possible qui serait celle » de la frappe, de la violence, aussi odieuses que soient les actions engagées, odieuses, et vraiment le pape a des paroles vigoureuses que nous reprenons pour les condamner, il ne faut surtout pas ajouter violence à la violence, c'est un risque trop grand qui va retomber sur les plus faibles, sur les plus petits, qui souffrent déjà. Et vraiment, c'est un cri qui est lancé pour qu'on cherche encore d'autres voies, même quand on a beaucoup de peine à les trouver.
La paix au Moyen-Orient, il en a été question cette semaine à Amman, en Jordanie, où se sont réunis près de 70 responsables des églises d'Orient. Il s'agissait de partager sur le thème des défis des chrétiens dans le monde arabe. À cette réunion organisée par le roi de Jordanie, participait le cardinal Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Celui-ci a livré ses réflexions sur ces deux jours de rencontre, saluant notamment la liberté de parole des intervenants. Pour le roi Abdallah II de Jordanie, a-t-il dit, les chrétiens participent à la stabilité de la région, mais ils ne sont pas au service de l'Occident. Lors de sa visite, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a défini trois priorités. Il ne faut pas vivre côte à côte, mais les uns avec les autres, poursuivre le dialogue interreligieux, enfin mettre un terme aux violences, notamment celles tournées vers les religions. Le cardinal Thoran, qui était reçu par le roi, qui s'est défini, selon les mots du prélat, comme protecteur des chrétiens, avec une attention à leurs aspirations et à leurs difficultés. Le roi de Jordanie qui a par ailleurs décoré le cardinal de l'ordre de la Renaissance. Ensemble, ils ont insisté sur le caractère arabe des chrétiens du Moyen-Orient. Le cardinal Thoran les a invités à avoir le courage de rester sur place. Les chrétiens ont besoin de se sentir respectés. Ils seraient ainsi plus motivés à participer à la construction de la société. La paix est une valeur commune à toutes les religions, a conclu le cardinal français. Les partisans de l'intervention armée en Syrie invoquent volontiers le devoir moral d'agir face à une action moralement inacceptable. Guerre juste, guerre préventive, guerre d'ingérence, autant d'expressions difficiles qui viennent alimenter le vocabulaire belliciste des uns et des autres. Monseigneur Marc Stinger est évêque de Troyes et président de Pax Christi France. Il s'est rendu de nombreuses fois au Moyen-Orient. Il revient notamment sur ce concept de la guerre juste, un concept auquel il n'est pas inutile de réfléchir à l'heure où les menaces d'une intervention en Syrie se font toujours plus insistantes. On l'écoute.
Ce que je peux vous dire de façon très, très claire, c'est que la notion de guerre juste du Moyen-Âge ne figure absolument pas dans le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Elle en est totalement absente. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Joseph Ratzinger qui dit ça dans un entretien avec un journaliste allemand en 2003. L'Église ne soutient aucune guerre dans le monde et a pour seule position d'encourager la paix. Ça, c'est la position claire de l'Église aujourd'hui. Mais ce qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, je peux même vous dire quel numéro c'est, parce que je le connais presque par cœur, en fait, c'est 2309, hein, si vous voulez vérifier. Il est question d'une légitime défense avec usage éventuel de la violence. C'est ce qui reprend le plus les principes de ce qui était autrefois la guerre juste. Mais il ne peut pas y avoir de guerre juste, la guerre n'est jamais juste.
Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour légitimer une intervention ?
Il faut que le dommage infligé par l'agresseur soit durable, grave et avéré. Il faut que tous les autres moyens aient été essayés et se soient révélés impraticables ou inefficaces. Il faut que soient réunies des conditions sérieuses de succès. Et enfin, il faut que l'usage des armes ne crée pas des dommages plus graves que le mal à éliminer. Ça, c'est en particulier l'usage de l'armement nucléaire en particulier.
Certains évoquent le devoir moral. Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ?
Le devoir moral, c'est le devoir de protéger. Ce qui est un devoir, et ça, ça fait partie de la morale chrétienne, et c'est dans la doctrine sociale de l'Église, nous avons le devoir de protéger nos frères humains. D'abord, un gouvernement a le devoir de protéger les siens. Nous avons le devoir de protéger nos voisins s'ils ne sont pas protégés par leur gouvernement. Nous avons le devoir de protéger au plan mondial, dans les organisations qu'on a aujourd'hui, quoi. Là où une population est en péril, là où le droit de vivre d'une population n'est pas respecté.
Protéger les populations, protéger les civils quand les gouvernements faillissent à leur protection, c'est la raison invoquée pour les partisans de l'intervention militaire.
La preuve que c'est exact, on ne peut pas le dire. D'où l'importance de la vérification. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais avant de le faire, il faut vérifier l'exactitude des faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je n'ai pas écouté exactement ce que Obama a dit, mais j'ai entendu ce que M. Hollande a dit. Il a parlé de punir Bachar el-Assad sur ce qu'il a infligé à son peuple, ce moyen qu'il a utilisé. Je ne vois pas au nom de quoi on peut parler de punir. Le devoir de protéger, ce n'est pas le devoir de punir, c'est le devoir de protéger, c'est de prendre tous les moyens possibles, y compris un moyen armé, pour protéger une population.
Imaginons un cas de figure, peut-être peu probable. Imaginons que le Conseil de sécurité soit unanime et se prononce en faveur d'une intervention armée contre le régime de Bachar el-Assad. Dans ce cas précis, l'intervention militaire serait-elle légitime donc ?
Ah ben là, on est dans la condition de la légitime défense avec usage de la violence. Et l'usage de la force répond à ces conditions que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que la communauté internationale a le devoir de protéger ceux qui ne sont pas protégés par leur propre gouvernement, au contraire, qui en l'occurrence sont même accablés par leur propre gouvernement. Il y a une légitimité à autoriser mais pas n'importe quel moyen, vous comprenez. Si l'emploi des armes entraîne des maux plus grands que le mal à éliminer, même la communauté internationale n'a aucune légitimité à préconiser l'emploi de moyens plus importants dont les effets sont plus graves que le mal qu'on veut extirper. Et ça peut vouloir dire que si l'Organisation des Nations Unies préconise une riposte armée à la situation, il faut que ce soit très encadré dans le temps, dans les moyens utilisés, dans les cibles à viser.
C'était Mgr Marc Stinger au micro de Manuela Afigi. Sur le terrain syrien, les combats font toujours rage et l'inquiétude des habitants est réelle, celle en particulier des chrétiens. C'est le cas notamment dans le village de Mahaloula, l'un des symboles du pays, un village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et où l'on parle encore l'araméen, la langue de Jésus. L'attaque ces derniers jours par les djihadistes du front Al-Nosra contre cette bourgade chrétienne a provoqué la fuite vers Damas de la grande majorité de ses 3000 habitants. Cette agression constitue une blessure profonde pour tous les Syriens en raison de la valeur historique, culturelle et spirituelle de ce haut lieu chrétien, a déploré le patriarche grec-catholique d'Antioche, Mgr Grégoire III Laham. Selon des témoignages sur place, les djihadistes se seraient emparés du village en provoquant des attentats suicides et auraient détruit les croix de la coupole du monastère Saint-Serge. Une déclaration de guerre à la communauté chrétienne a dénoncé un prêtre du village. Selon celui-ci, les combattants ne respectent même pas les leaders musulmans locaux qui sont, comme les chrétiens, impuissants face à toute cette haine. Comment s'explique la joie chrétienne face à la douleur? Comment s'explique la vie chrétienne comme attitude joyeuse du cœur? Telle est la question que s'est posée le pape François durant la messe célébrée ce vendredi matin en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le chrétien est fondamentalement joyeux, a dit le pape. Même s'il y a des moments de croix, de douleur, il y a toujours cette paix profonde de la joie parce que la vie chrétienne se vit comme une fête, comme les noces de Jésus avec l'Église. Le Seigneur, a-t-il dit, nous demande seulement de le reconnaître comme unique époux. Lui, le Christ, est toujours fidèle et nous demande aussi cette fidélité. Pour terminer ce magazine, partons au Vietnam, un pays qui s'ouvre peu à peu et où les vocations religieuses semblent connaître un véritable essor. Ainsi, dans le pays communiste, les séminaires et maisons religieuses ont connu une influence record pour l'année 2013-2014, révèle l'agence de presse Église d'Asie. À tel point que les autorités religieuses doivent procéder à une sélection rigoureuse des aspirants à la vie religieuse. Les précisions d'Hélène Destombes.
Ce ne sont pas moins de 410 candidats qui, au début du mois d'août, se sont présentés au concours d'entrée en première année du grand séminaire de Vientiane. Un afflux particulièrement visible dans les diocèses du nord du pays, où pendant 35 ans, les établissements religieux étaient restés fermés. Le grand séminaire d'Hanoï, la capitale, a été le premier à ouvrir ses portes en 1987, peu de temps avant celui de Saïgon. Peu à peu, l'étau s'est desserré et les vocations n'ont cessé d'affluer. Le dynamisme des vocations touche autant les garçons que les filles. Le nombre de places proposées par ces établissements est encore très limité, non plus en raison des quotas imposés par l'État, mais par manque de places. Mais la sélection drastique s'explique aussi par la difficulté de discerner les motivations réelles des jeunes dans une société encore très fermée. Les candidats entrent au séminaire pour de nombreux motifs différents, ont expliqué les responsables de séminaire dans une déclaration commune. Ils sont quelquefois très spirituels, mais ils restent souvent lourdement marqués par des ambitions mondaines. C'est pourquoi la motivation de la vocation des séminaristes a besoin d'être reconnue, purifiée et affinée au cours d'un processus de formation.
S'achève ce magazine. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.